On peut tourner ensemble dans le livre des Juges ce matin et pendant que notre sœur Virginie s'avance pour la lecture des Écritures. Avant d'aller dans un mot de prière, je veux juste vous mentionner, la semaine prochaine, c'est Stéphane Tessier, directeur du camp des Bouleaux, qui va poursuivre la série. Donc ce matin, comme Danny l'a mentionné, on commence une nouvelle série intitulée « Selfie ». On est dans le livre des Juges dans l'Ancien Testament. Et la semaine prochaine, Stéphane va poursuivre le message, d'accord? Alors, je vous ai encouragé la semaine dernière à commencer à vous préparer en lisant ce livre-là. Si vous n'êtes pas familier avec le livre des Juges, je vous encourage à le lire. On est dans un livre historique, on est dans l'Ancien Testament. 3000 ans derrière nous, c'est bon d'aller lire pour pouvoir suivre les messages et on va chercher à répondre à vos questions parce que vous allez avoir des questions avec le livre des Juges, ça je peux vous l'assurer. J'aimerais ça qu'on puisse aller dans un mot de prière avant d'écouter la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse prier non seulement pour nous ici, mais qu'on puisse prier aussi pour l'Ukraine, qu'on puisse prier pour le Venezuela. Deux pays qui sont profondément troublés actuellement. On l'a vu dans les médias beaucoup avec l'Ukraine ces dernières semaines. Et il y a beaucoup de chrétiens dans ces deux pays-là aussi qui vivent à travers tous ces troubles-là. Et des frères et sœurs ici qui ont des gens qui sont... C'est ça qu'on puisse juste aller ensemble dans un mot de prière, s'il vous plaît. Père éternel, on vient dans ta présence ce matin dans un pays de paix, un pays d'abondance et... C'est sans inquiétude, Seigneur, qu'on est rassemblés ici pour écouter le message de ta parole, pour entendre ta parole, Seigneur, pour t'adorer, pour te laisser nous parler, venir nous rencontrer. Et on veut être disponible devant toi ce matin, Père. Mais on aimerait t'amener aussi ce pays, Seigneur, l'Ukraine, ce pays, le Venezuela, Seigneur, qui vivent des troubles politiques majeurs, profonds et des chrétiens sont là au milieu de tout ça, et il y a de la souffrance parmi la population, Seigneur. Et nous croyons fermement, profondément, que tu es souverain. Tu es souverain, Seigneur. Tu vois la méchanceté du cœur humain, tu vois l'égoïsme, tu vois les guerres entre les hommes, les rivalités, les mensonges, les tricheries, les abus, Seigneur. Tu vois toutes ces choses. Et alors, on veut te prier, Père, en faveur de ces pays. En faveur des frères et sœurs qui sont là-bas, Seigneur, remplis d'inquiétude, chargés d'inquiétude. On te prie, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont ici et qui, des fois, n'ont pas de nouvelles, s'inquiètent, sont préoccupés de ce qui est en train de se passer dans leur pays, Seigneur. Père, nous croyons fermement que tu es attentif à tout ce qui se passe sur la terre et que tu gouvernes, Seigneur, et que dans ta grande patience, Seigneur, tu laisses les hommes souvent faire des choses qui sont ignobles, mais qu'un jour, Seigneur, tout homme, toute femme, tout être humain comparaîtront devant toi et rendront des comptes. Entre-temps, ta parole nous dit que tu inclines le cœur du roi comme on détourne le lit d'une rivière, Seigneur. Que tu peux venir affecter souverainement même les jeux politiques internationaux, Père. Alors, on te prie en faveur de ces pays qui sont rempli de souffrance et d'incertitude actuellement, Seigneur. Père, on veut te prier pour nous-mêmes. Tu es souverain sur nos vies. On a besoin de t'entendre ce matin. On a besoin que tu nous amènes à voir ta perspective sur les défis, les épreuves qui sont placées devant nos vies, Seigneur. Et donc, on veut écouter ce message que tu as à nous donner à travers le livre des Juges. Viens parler à nos cœurs, viens nous transformer, Seigneur. Viens nous transformer à ton image, Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Virginie va lire deux passages ce matin. On commence une série sur le livre des Juges, mais comme c'est un livre historique, on est dans l'Ancien Testament, c'est un peu loin. On a décidé de l'introduire avec une lecture dans Josué 23. Et donc, Virginie va nous lire une bonne partie de Josué 23, qui est le livre qui précède, juste pour se mettre dans le contexte. Et ensuite de ça, elle va nous lire Juges 1. Vous pouvez tourner, vous pouvez suivre sur les écrans. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Donc, Josué 23, édition Louis II. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit : « Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai exterminées, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous. Et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait mille, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Donc le deuxième passage, Juges chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 5. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit « Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Juda dit à Siméon, son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. » Et Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et ils battirent les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, « 70 rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassaient sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. » On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjat Arba, et il bâtit Sheshai, Aïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit, Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat-Sefer et qui la prendra. » Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne. Et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ? » Elle lui répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kenyen, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda, dans le désert de Juda au Midi d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Tsephat. Ils dévouèrent la ville par interdit, et on l'appela Orma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les trois fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Bethel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Bethel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui dirent, « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville, et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée. Mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Héthiens. Il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shéan et des villes de son ressort, de Tanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Jibléam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort. Et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Aser ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Aklal, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Rehob. Et les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anat, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays. Mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anat furent assujettis à un tribut. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan, et ne les laissèrent pas redescendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Erès, à Ajalon et à Shalbim, mais la main de la maison de Joseph s'apesantit sur eux, et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Sela et en dessus. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous. Mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. » Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel.
Si vous cherchez des noms propres, des prénoms pour vos enfants, il y a une couple d'options ici. Shishaï. Merci Virginie. Tout un passage, hein? On passe du Nouveau Testament à l'Ancien Testament, on arrive dans un autre univers, on dirait. Une des choses qu'on va voir à travers le livre des Juges, c'était une époque où il n'y avait pas de roi qui était en train de diriger. Et donc, les gens se servaient de leur gros bon sens. Des fois, lorsqu'on va lire des livres historiques comme ça, on fait un saut dans le passé, puis on a l'impression, on regarde des comportements, il y a des choses assez violentes, déjà dans le chapitre 1, n'est-ce pas? Et on se dit, ça n'a pas rapport avec moi, ça n'a pas rapport avec mon époque. Mais vraiment, un des éléments qui va ressortir du livre des Juges, c'est cette idée que chacun se servait de son gros bon sens. Et ça, c'est quelque chose de commun avec notre époque. S'il y a une époque dans l'histoire de l'humanité où l'être humain dit, regarde, mon gros bon sens, c'est ça qui va me guider, c'est aujourd'hui. Cette semaine, on a eu une illustration un petit peu loufoque dans les médias, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est rempli de gros bon sens, qui est passé à la commission Charbonneau, Rambo Gauthier. Ça, c'est un homme qui se sert de son gros bon sens pour juger des situations, puis ça donne des affaires assez étranges quand tu l'entends parler. Ça tournait sur les ondes en boucle, en boucle. Là, tu te rends compte que des fois, lorsqu'on s'appuie sur notre gros bon sens, on peut s'en aller n'importe où, n'importe où. Mais en même temps, certains d'entre vous, vous l'avez écouté cette semaine, puis vous avez dit, « OK, tout le monde rit de lui, là. » Mais moi, je pense qu'il a raison. Moi, je pense qu'il a raison. Parce qu'il est en train de dénoncer des affaires. C'est facile de rire des fois des... on entend parler des radios poubelles, puis des gens comme ça, ils expriment toutes sortes d'affaires, mais plusieurs d'entre vous, vous les écoutez, vous vous dites, « Ouais, mais il y a juste eux qui osent dire certaines choses. » Puis en fin de compte, ce que tu en comprends, c'est qu'il y a ces milieux-là où des gens disent ce que d'autres n'osent pas dire de manière assez crue, des fois un peu ridicule aussi. Puis tu te dis, ouais, le gros bon sens, c'est pas tout le monde qui l'a. Puis après ça, ces gens-là sont jugés par les bien-pensants de la société, les gens cultivés qui, avec leur gros bon sens, jugent les autres en fin de compte. Puis ce que tu réalises, c'est que la société est dirigée par plein de gens qui utilisent leur gros bon sens. Dans le livre des juges, à la fin du livre des juges, il y a une phrase absolument extraordinaire dans Juges 21. Voici ce qui est écrit. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » On peut avoir l'impression qu'un livre comme le livre des juges n'a rien à nous enseigner parce que c'était à une époque très éloignée où les gens pensaient autrement. C'est un livre où il y a beaucoup de violence et on va en parler ensemble pendant la série, mais on va voir assez rapidement qu'on a beaucoup de leçons à apprendre de ce livre-là. Ce livre-là va nous parler de différentes choses. On peut les afficher, s'il vous plaît. On va voir ensemble que ce livre va nous parler de nos cœurs qui sont souvent partagés. Va nous parler de faux dieux que nous nous donnons à nous-mêmes. Va nous parler de difficultés à marcher par la foi en s'appuyant sur la grâce de Dieu, donc par la foi. De la grâce et de la patience de Dieu envers Israël et envers nous. Du besoin constant de réveil spirituel dans nos vies. On ne peut jamais prendre pour acquis la qualité de notre marche spirituelle. De la souveraineté absolue de Dieu, même sur les pires infamies que les hommes peuvent poser comme gestes. Et définitivement, ce livre-là va nous dire une chose. On a absolument besoin d'un leader, d'un sauveur parfait, pas de leader aussi corrompu que nous le sommes nous-mêmes. Alors, juste pour se mettre en contexte un petit peu, on recule dans le temps, comme je l'ai mentionné, on s'en va quelques 3000 ans en arrière, d'accord? On recule vraiment dans le temps. Et juste pour se remettre dans le contexte où est-ce qu'on est, on a pris le temps de lire une petite portion du livre de Josué. Eh bien, Dieu s'est donné un peuple. Dieu s'est donné un peuple parce que Dieu a considéré toute la terre et il a dit, « Voici sur toute la terre, les hommes font ce qui leur semble bon. Les hommes se dirigent par eux-mêmes, indépendamment du Créateur, sans consulter le Créateur. Ils font ce qui leur plaît selon leur gros bon sens. » Et Dieu a décidé. Dieu a décidé de se donner, de former un peuple avec des gens qui n'étaient pas un peuple. Il les a pris alors qu'ils étaient une famille, okay, une grosse famille maintenant, mais en Égypte, esclaves. Et ce n'était pas un peuple, c'était des esclaves, d'accord? Ce n'était pas une entité nationale qui pouvait comme être reconnue. Il est allé les chercher là, il les a délivrés de leur esclavage, les a conduits vers une terre promise. Et lorsqu'on arrive dans le livre des juges, on peut avoir l'impression qu'on assiste à l'histoire de l'humanité dans plein de nations. À un acte conquérant où une nation vient, écrase des nations, les domine, les massacre pour affirmer son impérialisme. C'est pas ça qui est en train de se passer ici, d'accord? Et même s'il y a beaucoup de violence dedans, effectivement, Dieu est en train de prendre Israël pour juger un certain nombre de nations qui se sont créées des dieux, se sont forgées des dieux par eux-mêmes. Mais ce peuple-là est pas appelé à conquérir la terre. Ce peuple-là est appelé à s'installer dans une terre, à un endroit, et à marcher dans les voies de Dieu pour la gloire de Dieu et pour leur plus grand bonheur, afin d'exposer au monde, dans toute cette terre où chacun marche selon son gros bon sens, selon ce qui lui plaît, exposer à toutes les nations de la terre, voici un peuple qui marche avec Dieu, le Créateur de l'univers. Voici ce à quoi j'appelle tous les hommes, c'est à marcher avec moi. Et c'est ça l'histoire d'Israël vers la terre promise, d'accord? Ce n'est pas un peuple qui s'en va faire une conquête impérialiste, qui va vouloir dominer toute la terre. Il était destiné simplement à venir occuper cet endroit pour vivre avec Dieu, pour marcher avec Dieu. Et ça impliquait effectivement qu'ils allaient devoir se séparer. Parce que toutes les nations environnantes et toutes les nations de la terre à ce moment-là sont en train d'adorer, de servir des dieux qu'ils ont imaginés, des dieux qu'ils ont conçus. Lorsque l'homme est laissé à lui-même, l'homme s'imagine des dieux. On a besoin de ces ressources-là dans lesquelles on va se confier. Elles existent encore aujourd'hui. Notre société est remplie de dieux encore aujourd'hui. Pas simplement des statues devant lesquelles certains vont se prosterner, mais que ce soit l'argent, le matérialisme, la santé, la beauté. Nous nous prosternons devant ces dieux constamment. Et toutes ces nations-là servaient toutes sortes de dieux qu'ils s'étaient forgés eux-mêmes. Et Israël était appelé à se séparer, vivre au milieu d'eux, non pas à l'extérieur, sans eux, en relation quand même, mais séparés en même temps pour vivre et marcher selon les préceptes du Créateur de tous les hommes. Non pas d'une petite idole qu'on se serait forgée, mais du Créateur. Et donc, Israël était appelé à se séparer, vivre à l'écart, c'est vrai, parce que leur mandat était de faire connaître le Dieu Créateur. Ils n'étaient pas appelés à connaître de petits dieux forgés par les hommes, ils étaient appelés à connaître le Dieu des cieux, celui qui a créé tous les hommes, et à le faire connaître. Et cela impliquait qu'ils n'allaient pas entrer dans des alliances avec les peuples voisins, alliances qui engageaient automatiquement à partager les cultes avec eux. Ils faisaient des mariages interraciaux, mais ça impliquait aussi, d'accord? Ça impliquait aussi d'aller adopter ces cultes-là à des idoles. Ce n'est pas qu'Israël n'entrait jamais en relation avec des gens d'autres nations, au contraire. On voit des gens qui commencent à croire en l'Éternel et qui vont intégrer même le peuple d'Israël. On a plusieurs récits comme ça dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on arrive à ce moment-là dans l'histoire, bien la conquête a commencé, c'est-à-dire que conduit par Moïse hors d'Égypte, puis à travers le désert, ensuite conduit par Josué, ils ont commencé à entrer dans la terre promise. On arrive à la fin de la vie de Josué. La conquête n'est pas complétée, n'est pas entière, et Josué va décéder. Et là, il vient réitérer l'alliance avec le peuple. Il dit, voici, j'ai été là pour m'assurer que vous marchiez avec l'Éternel. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je ne serai plus là pour m'assurer que vous marchiez avec l'Éternel. Oh, nous allons marcher avec l'Éternel. Et il s'engage à faire ça. Lorsqu'on arrive au début du livre des Juges, Josué décède et le peuple va être sans roi. Le livre des Juges, c'est cette période entre la mort de Josué et le premier roi qui est mis en place sur Israël. D'accord? Et on est dans cette période-là entre les deux. C'est une période de haut et de bas spirituel, mais ce n'est pas une période de haut et de bas spirituel comme ça. C'est une période de haut et de bas spirituel comme ça. Parce que plus on va avancer à travers le livre des juges, plus on va voir que les hauts sont de plus en plus bas et les bas sont de plus en plus bas. Dieu va leur donner des chefs spirituels pour les conduire, mais plus on avance à travers le récit, plus ces juges, ces chefs spirituels qui sont là pour les ramener vers Dieu alors qu'ils se sont éloignés de Dieu, plus on avance, plus ces hommes-là ressemblent au peuple dans leur propre péché. Ils sont de moins en moins spirituels et on découvre progressivement à quel point finalement ce sont des hommes déchus. C'est un des aspects que j'apprécie énormément à travers la Bible. La Bible n'est pas là pour nous raconter des histoires où l'homme serait l'homme chrétien, où l'homme de Dieu serait sans faute et sans péché. La Bible est extrêmement honnête et très crue lorsqu'elle dépeint l'état de nos cœurs. Et c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre-là, un peuple qui est décevant, profondément décevant. Un Dieu qui est gracieux, mais des chefs qui sont tout aussi décevants, même si en même temps ils veulent s'accrocher à Dieu par la foi. Et c'est à ça qu'on assiste à l'intérieur de ce livre-là. On arrive au début du livre des Juges, chapitre 1, et ils doivent compléter la conquête. Alors, Juges 1, qu'est-ce qui se passe ici? Bien, Josué décède et puis Israël va se tourner vers Dieu pour le consulter. Ils vont vers lui et ça augure bien au départ. Israël, dans les premiers versets, Israël se tourne vers Dieu pour dire « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? » Puis l'Éternel leur répond. Alors, ils consultent l'Éternel. Dieu répond et dit « Ça va être la tribu de Juda, d'accord? » Donc, ça va être une des tribus d'Israël qui va commencer à aller faire sa conquête. Elle va monter et Dieu lui donne une promesse et lui dit « J'ai livré le pays entre ses mains. » Maintenant, il y a un petit élément ici juste à noter. Au verset 3, Juda dit à Siméon, son frère, « Monte avec moi. » Ça semble anodin, d'accord, mais Dieu a répondu, « Juda, tu vas aller, j'ai livré le pays entre tes mains. » Juda se tourne vers Siméon et dit, « Viens donc me donner un coup de main, s'il te plaît. Viens m'aider. J'aurai besoin de toi pour faire cette conquête-là. » D'accord, on reste là. Juda part à la conquête, les victoires se multiplient. C'est même troublant de voir le genre de violence qui se passe à ce moment-là où ils vont réussir à battre le roi Adoni-Bézek et ils vont lui couper les pouces et les gros orteils. Maintenant, on vit à une autre époque, d'accord? D'une part, on voit cette violence-là, puis d'autre part, lorsqu'on écoute le commentaire du roi lui-même, on réalise qu'il voyait les choses autrement. Écoutez bien son propre commentaire, ce roi-là. Voici ce qu'il dit au verset 7. Adoni-Bézek dit, « 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassaient les miettes sous ma table, parlant de ses propres conquêtes. » Voici comment il a interprété ce qui est en train de se passer. « Dieu me rend ce que j'ai fait. » On l'amena à Jérusalem et il y mourut. C'est une période qui est dure et qui est violente, mais en même temps, un homme aussi fourbe et pervers que ce roi-là assume ses propres péchés. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une leçon pour notre époque ici? Alors que ce n'est jamais de notre faute, on n'est jamais responsable de quoi que ce soit qu'on fait. Et cet homme-là qui ne connaissait pas Dieu a vu dans cet acte-là la souveraineté du Dieu créateur qui est en train de le juger. La conquête se poursuit et puis il y a le récit de Caleb. Je ne vais pas m'arrêter ici. Caleb était celui qui, avec Josué, est allé explorer comme espion la terre promise, avait été fidèle et donc Dieu va le bénir ici. Et on a cet exemple d'un homme de Dieu, d'une famille qui marche avec l'Éternel. Et la conquête se poursuit. Lorsqu'on arrive au verset 17, on lit « Juda se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Tsephat. Ils dévoirent la ville par interdit et on l'appela Orma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon de son territoire, d'Écron de son territoire. L'Éternel fut avec Juda et Juda se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. » Israël, c'était pas un peuple guerrier, d'accord? Oui, on assiste à des guerres, tout ça, mais il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas d'armée constituée, il n'y avait pas de professionnels de la guerre. C'était des esclaves qui avaient été constitués en peuple et qui maintenant entraient là. Il n'y avait pas des armées professionnelles qui étaient là chaque année, qui devaient aller faire des guerres. Ils n'étaient pas équipés pour ça. Et constamment dans son histoire, Israël va être confronté à des peuples qui lui sont supérieurs sur le plan militaire. Constamment, et c'est exactement ça, ce à quoi ils font face ici. Ces gens-là sont équipés avec des chars de fer, alors qu'Israël avait probablement des épées, des fourches, des bâtons, des frondes pour aller se battre, d'accord? Ils n'arrivaient pas là avec des tours et avec des catapultes, ça marche. Et donc, ils arrivent devant cette force militaire qui leur est supérieure. Et le commentaire du narrateur ici nous est dit, « Mais il ne put chasser les habitants de la plaine. Ils ont été incapables de le faire. » Et il va s'en suivre un récit qui nous raconte la suite des conquêtes, mais qui va être caractérisé par cette idée où le peuple ne va jamais conquérir entièrement le territoire. Et là, on a un paquet d'exemples. Je vais juste vous donner quelques exemples rapidement, mais du verset 21 au verset 36, c'est ça qui nous est raconté. Verset 21, « Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour parmi le peuple. » D'accord? Verset 27, « Manassé ne chassa point les habitants de Bethshean. » Ensuite de ça, au verset suivant, à la fin du verset 27, « Les Cananéens voulurent rester dans le pays. » 28, il s'assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. 29, Éphraïm ne chassa point les Cananéens. Les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Guézar. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron. Les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, Israël entre dans cette terre-là. La directive avait été très, très claire, mais ils arrivent devant une force militaire impressionnante et ce qu'ils décident de faire, c'est d'assujettir les peuples pour en soutirer de l'argent. Et puis, on arrive au chapitre 2. Le chapitre 2 va mettre en lumière deux perspectives, deux manières de voir cette histoire-là. Alors, d'une part, jusqu'ici, dans le chapitre 1, on a un narrateur qui est en train de nous raconter toute cette histoire-là comme s'il avait accompagné. Imaginez que ce sont des publications de presse qui apparaissent et on a un récit, on a un journaliste qui est avec le peuple d'Israël et qui marche avec eux, qui voit les conquêtes et fait simplement rapporter les conquêtes et les semi-conquêtes qu'ils vont faire. Puis on arrive au chapitre 2. Au chapitre 2, un envoyé de l'Éternel va vers Israël. Cet envoyé-là, c'est probablement un ange, dépendamment de votre traduction, vous pouvez avoir les deux. Le terme qui est là peut être traduit par messager ou par ange, mais ce n'est pas un prophète, d'accord? Alors, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe ici, et donc c'est probablement un ange qui est envoyé de la part de Dieu pour aller parler à Israël. Et simplement, je fais juste relever le fait que cet ange-là va voyager de Gilgal à Bochim. C'est un petit peu étrange parce qu'un ange, d'habitude, il dit « Be masker » puis pff, il apparaît. Mais celui-là va voyager sur la route. Il va partir de Gilgal parce que Gilgal, c'est l'endroit dans Josué 5 où l'Éternel a renouvelé son alliance avec Israël. Et donc, il est là pour dire « Rappelez-vous de l'alliance que vous avez faite. Maintenant, je viens vous rejoindre à Bochim. Je vais vous parler. » Et à ce moment-là, on entend la perspective de Dieu sur ce qui est en train de se passer. C'est super important de saisir ça. La leçon la plus importante, je pense, pour notre foi à nous se trouve ici. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bochim, Juges 2:1, et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, vous n'adopterez pas leurs dieux. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? » Ici, on voit apparaître la perspective de Dieu. Israël s'en va dans sa conquête, arrive devant des armées qui leur sont supérieures militairement avec des chars de fer. Et voici comment ça nous est raconté au verset 19. Juda ne put chasser les habitants de la plaine. L'envoyé de l'Éternel s'en vient vers le peuple d'Israël et lui dit, « C'est pas que tu n'as pas pu, tu n'as pas voulu honorer mon alliance. » Vraiment intéressant, hein? Le peuple d'Israël est là, il y a des conquêtes à faire, les ennemis sont puissants, ils sont grands, ils sont impressionnants. Il arrive devant eux et il dit, « On n'a pas le choix, il va falloir qu'on s'y prenne autrement. Autrement, ils vont nous écraser, on n'est pas capable de les battre. » Puis d'autres raisonnements commencent à embarquer aussi. Oui, mais attends un petit peu, si on les détruisait, on perdrait des esclaves, on perdrait des serviteurs, si on les assujettissait. Est-ce que c'est pas ça que tous les conquérants font? Ils vont se garder des gens qui vont travailler, puis ils vont les assujettir à un tribut, ils vont leur charger un impôt, une taxe pour ne pas les avoir détruits. Ça pourrait être profitable, ça. Et l'Éternel vient, puis il dit, « C'est pas que vous n'avez pas pu, c'est que vous n'avez pas voulu honorer mon alliance. Vous n'avez pas voulu honorer mon alliance. » Au verset 3, il continue en disant, « J'ai dit alors, c'est bon, je ne les chasserai point de devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Parce que vous n'avez pas voulu obéir à notre alliance, alliance qu'on avait contractée ensemble, je ne les chasserai pas, je ne vous donnerai pas les victoires même que vous voudriez, leurs dieux vont rester là, et ils vont être un piège pour vos cœurs, parce que vous allez traiter des alliances avec eux. » Le peuple d'Israël dit, « On n'a pas pu, Seigneur. Les conquêtes, les défis étaient trop grands pour nous. » Dieu dit, « Vous n'avez pas voulu. » Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu est injuste avec Israël? Est-ce qu'une seule fois dans l'histoire d'Israël, où Israël a eu des victoires par lui-même? Est-ce qu'il y a une seule fois dans l'histoire d'Israël où Israël a pu vaincre par lui-même? Jamais. Jamais. Qu'est-ce que Dieu attendait d'Israël ici lorsqu'il se retrouve devant des chars de fer? Qu'il crie à l'Éternel. Qu'il crie à l'Éternel, qu'il se tourne vers Dieu et qu'il dise, « Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont des chars de fer. » Est-ce que tu veux qu'on monte? Est-ce que tu veux qu'on continue? Est-ce que tu vas nous donner la victoire? Et devant toutes ces opportunités de garder des milliers et des milliers de personnes qu'ils pouvaient assujettir et puis recevoir des taxes, des impôts, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient obéir à la parole de Dieu et dire non, vous les chassez du pays parce qu'ils vont devenir un piège pour vous. Voyez-vous, ça a toujours été ainsi. Dans l'histoire de la foi, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Ça a toujours été ainsi. Jamais dans les Écritures, Dieu nous dit, vous allez pouvoir le faire par vous-même. Jamais. Reportez-vous dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus dit? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que Jésus dépose sur nos épaules un fardeau? Est-ce que Dieu dépose sur nos épaules? Est-ce que la parole de Dieu dépose sur nos épaules un fardeau d'accomplir des choses qu'on ne pourrait pas faire? Jamais. Au contraire, Dieu constamment, à travers toutes les Écritures, tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament, dit « Sans moi, vous n'y arriverez pas, la gang. Tu ne seras pas capable de marcher dans la foi. Tu ne seras pas capable d'obéir. Tu ne seras pas capable de pardonner aux gens qui te font du mal. Tu ne seras pas capable de résister à des tentations par toi-même. Tu ne seras pas capable de le faire par toi-même. Les défis sont trop grands. » Mais quand tu arrives devant ces défis-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors d'un côté, j'ai Jésus qui me dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Puis de l'autre oreille, j'entends l'apôtre Paul qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est toute l'histoire des victoires de l'Ancien Testament. « Sans moi, dit l'Éternel, vous n'arriverez pas à les vaincre. Il faut que je sois avec vous, c'est certain. Les défis vont toujours être trop grands pour vos yeux. Le jour où vous les trouverez à votre mesure, inquiétez-vous. Parce que l'appel que j'ai placé sur vos cœurs, c'est de marcher avec l'Éternel, c'est de marcher en suivant un Dieu qui n'est pas plus petit que vous, comme toutes les idoles que les nations environnantes servent, mais un Dieu qui est plus grand que vous. C'est le Créateur, c'est lui qui domine sur toutes choses, et c'est lui que vous êtes appelé à suivre. Et ces idoles-là vont rester à côté du peuple d'Israël, et Israël va contracter des alliances. Et vous voyez, ce qui est en train de se passer, c'est qu'Israël se sert de son gros bon sens. Israël arrive là avec ses yeux, voit les défis, puis il dit, c'est pas possible, on peut pas y arriver. D'un autre côté, il voit des opportunités, il dit, ouais, je sais qu'on devrait les chasser, mais écoute, je pense qu'on pourrait faire de l'argent avec ce monde-là. Ce serait plus sage quand même, parce qu'on arrive et on n'a pas beaucoup de ressources. Perdre toutes ces ressources-là, est-ce que vraiment c'est sage? Et Israël décide de se servir de son gros bon sens plutôt que d'aller mettre son jugement à la lumière de la parole de Dieu. Et nous sommes tous tentés de le faire lorsqu'il y a des défis dans nos vies. On arrive devant certains défis dans nos vies, puis on regarde ça, puis on dit, je ne pourrais pas pardonner ça. C'est impossible. Cette tentation-là, je ne pourrais pas réussir. Et je ne veux pas avoir une approche simpliste à ça, d'accord? Il y a des gens qui luttent avec des dépendances terribles, d'accord? Mais même lorsque, et ceux qui luttent avec ça le savent, même lorsque je suis en train de lutter avec une dépendance, est-ce que je n'ai pas la possibilité de me rendre redevable? Est-ce que je n'ai pas la possibilité d'appeler quelqu'un pour simplement qu'il m'accompagne là-dedans? Est-ce que je n'ai pas la possibilité d'aller chercher des ressources pour m'accompagner? Passez à l'autre micro. J'ai toujours la possibilité de me tourner vers quelqu'un d'autre pour avoir des ressources qui vont m'aider. Mais on regarde les choses avec nos yeux, comme Israël les avait regardées. Avec notre gros bon sens à nous, on regarde les choses puis on dit non, c'est un défi trop gros. Je ne pourrais pas pardonner ça, je ne pourrais pas vaincre ça, je ne pourrais pas changer, je ne pourrais pas y arriver. Et la raison pour laquelle on raisonne comme ça, c'est qu'on s'appuie sur nos propres forces. Et peut-être que tu diriges ta vie comme ça généralement. Tu t'appuies sur ton gros bon sens, tu dis « je ne suis pas plus fou qu'un autre, je suis capable de réfléchir ». Laisse-moi dire quelque chose, tu es définitivement plus fou que Dieu. Définitivement. Tu es définitivement moins sage que Dieu. Tu es un insensé à côté de Dieu, nous le sommes tous. Il y a juste Dieu qui est véritablement sage. Il y a un proverbe qui dit « telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. » Son issue c'est la mort. Alors Israël est là et puis il dit « on ne peut pas ». Dieu dit « non, tu ne veux pas ». Israël dit « on ne pouvait pas avoir ces victoires-là ». Dieu dit « non, tu ne voulais pas avoir ces victoires-là ». Et à partir de ce moment-là, dans son cœur, Israël contracte des alliances avec d'autres nations qui vont entraîner des idoles dans leur vie. Ils vont se tourner vers ces idoles-là. Voyez-vous, le problème d'Israël ici, c'est que c'était des disciples qui avaient un cœur partagé. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Quelles sont les idoles qui sont là dans ta vie, qui te permettent de servir Dieu, mais en même temps de servir d'autres dieux? Quels sont les défis devant ta foi? Tu les considères, tu les regardes et dans ton cœur, ce que tu dis, c'est dans le fond de ton cœur, tu dis « je ne peux pas ». Puis Dieu dit « t'as raison, tu ne peux pas. Est-ce que tu veux te tourner vers moi? Parce que moi, je peux. Moi, je peux t'accorder la victoire sur ce péché. Moi, je peux t'accorder la grâce d'aimer un ennemi. Moi, je peux t'accorder la puissance de marcher dans mes voies. Je peux t'accorder la force d'être libéré de toutes les idoles. Si tu décides dans ton cœur de marcher avec moi, est-ce que ton cœur est partagé entre l'Éternel et entre d'autres dieux? Parce que ces dieux-là deviennent des pièges pour nos cœurs et on a des cœurs partagés. Quels sont les domaines actuellement dans ta vie où tu dis « je ne peux pas » ? Tu sais ce que Dieu attend de toi puis tu dis « non, je ne peux pas. J'y arriverai pas. » Reste pas là. Reste pas là. Jusque-là, là, Dieu aime tellement ça. Parce que Dieu prend plaisir lorsque humblement on va dans sa présence et on dit, « Seigneur, je ne peux pas. Je ne pourrais pas les vaincre par moi-même. Je ne pourrais pas continuer à aimer. Je ne pourrais pas continuer à me donner. Je ne pourrais pas marcher dans la sainteté. Je ne pourrais pas abandonner tel péché, abandonner telle dépendance, telle idole en ma vie. Je ne pourrais pas le faire par moi-même. Et Dieu dit, viens à moi maintenant, viens à moi. Parce qu'avec moi, tu vas réussir. Le livre des juges nous pointe constamment dans la direction d'un sauveur. Parce que cette histoire-là, ce livre-là, va nous raconter l'histoire de sauveurs déchus, de sauveurs fourbes eux-mêmes, de sauveurs imparfaits. Il va pointer constamment, on va le voir plus on avance dans le livre, va pointer constamment vers un sauveur parfait qui va venir.